qui était une grande figure de Saint-Benoît, très grande figure de Saint-Benoît, parce qu'il faisait peur aux enfants. C'était le père fouettard du village. Chaque fois qu'un enfant se tenait mal, on le menaçait d'appeler le père parisien. Pour vous dire à quel point ce film est très très important pour la mémoire évidemment de Marc Jacob, parce qu'il fait appel évidemment à des gens qui l'ont d'ailleurs bien connu. Voilà.
Et est-ce que le docteur Dreyfus vit toujours ?
Non, le docteur Dreyfus est décédé.
Ah.
Alors le docteur Dreyfus est le médecin qui s'occupait de l'infirmerie. Le docteur Veil était le médecin-chef responsable.
C'est ça.
Mais le docteur Dreyfus est celui qui lui a véritablement, qui a dressé le diagnostic et qui a soigné avec les moyens du bord Marc Jacob lorsqu'il était à l'infirmerie. C'est-à-dire que le certificat de décès est signé par le chef de service, mais c'est sur le diagnostic du docteur Dreyfus. C'est donc le docteur Dreyfus que Yannette Deltan-Tardif a rencontré, suivi ensuite par l'interview du docteur Veil, qui a été le premier récit étoffé de la mort de Marc Jacob, tout de suite après la libération, en octobre 1944, puis repris ensuite dans le numéro hommage de 1945 des moines de Saint-Benoît, le numéro du Val d'Or. Voilà. Le docteur Dreyfus est malheureusement mort très jeune.
Oui, ça, je ne savais pas.
Ouais.
J'aimerais dire merci d'abord, parce que je me sens très chanceux d'avoir eu le privilège de voir ce film qui m'a touché. Et en fait, je voulais vous demander, nous savons effectivement que ce film n'est pas disponible, que c'est un privilège de le voir. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce film voit le jour à l'avenir, dans le commerce par exemple?
Vous savez, c'est ce film où beaucoup des émissions qui correspondent à ce que moi je considère être l'âge d'or de la télévision dorment dans les blocos de l'Institut National de l'Audiovisuel. On a espéré un moment, on avait entendu parler au moment de la réforme actuelle de l'audiovisuel lancée par Sarkozy, qui aurait une chaîne qui serait attribuée à l'INA dans le cadre de l'arrivée du numérique. Et puis je crois qu'on n'en parle plus du tout, et c'est bien dommage parce que il y a des quantités de trésors, enfin je veux dire, qui ne sont... Mais vous savez, c'est un peu, pour généraliser, on est en train de fêter, de commémorer le 50e anniversaire de la création du ministère de la Culture. Il existe, paraît-il, un service public encore en France. Et j'ai écrit personnellement aux responsables pour rediffuser non pas mes films, mais ceux de Santelli, qui sont extraordinaires et qui correspondent parfaitement à cette commémoration du... Je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est... Vous savez, c'est... Ça serre le cœur, mais je veux dire que le mot culture aujourd'hui n'a pas très bonne presse. D'ailleurs, quand un président de la République se permet de dire qu'on peut se passer de lire La Princesse de Clèves, ça transforme le problème de l'audiovisuel en un problème plus général et qui, lui, est politique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Merci aussi pour
nous avoir permis de voir ce film, effectivement, c'est assez extraordinaire. Ce qui me marquait, c'était dans les témoignages d'André Bizy et de Fernand Olivier, des petites pointes de critique, parfois même un léger ressentiment encore après les années. Je ne sais pas si vous avez encore les souvenirs de l'intégralité de l'entretien, mais je me demandais si c'était simplement un moment qui avait été choisi, mis en évidence, ou si l'intégralité de leur témoignage portait cette tonalité un peu particulière qu'il y a dans ces deux témoignages par rapport aux autres qui sont plus positifs, plus amicaux aussi. Alors je ne sais pas si vous avez encore ces souvenirs en tête de la totalité des entretiens avec Fernand d'Olivier, André Bizy.
Non, Fernand d'Olivier, j'ai relativement beaucoup tourné avec elle parce que c'est d'ailleurs Canneveller qui disait qu'elle était la seule, venant de Canneveller, c'est un grand compliment, qui était la seule qui ne mentait jamais. Et les souvenirs de... C'est un livre d'ailleurs, puisqu'elle a été, comme vous savez, probablement la compagne de Picasso pendant bon nombre d'années. Et je dirais qu'elle reflète assez bien cet agacement aussi que Marc Jacob devait provoquer et qu'il provoquait probablement. Je crois que c'est Mac Orlan qui en parle très bien en disant que probablement que Marc Jacob était quelqu'un qui ne pouvait pas se priver d'un bon mot, même aux dépens de ceux qu'il aimait, je dirais. Et puis aussi, je crois qu'il faut bien se souvenir que quand Fernand d'Olivier parle à demi-mot de sa nature, de son côté ambigu, il faut bien se rendre compte aussi qu'à l'époque, l'homosexualité d'un Marc Jacob devait poser des quantités de problèmes qui ne sont plus de saison, fort heureusement aujourd'hui, mais qui à l'époque devait pas mal scandaliser, même un Picasso, par exemple. Et ça, c'est un peu cela qu'elle dit, tout en le disant pas et tout en le disant. Mais moi, ce qui me frappe en voyant ce film, que je n'avais revu d'ailleurs qu'une fois avec vous, c'est l'extraordinaire qualité de la langue de tous ceux qui y participent. Il y a quelque chose là qui vraiment rétrospectivement m'enchante et me fait peur en même temps, parce que quand on... Il y a une espèce de maîtrise du français, que ce soit chez Salacrou, que ce soit chez André Bizy, chez le docteur Dreyfus, et même chez ce brave Bourrelier, qui est extraordinaire, enfin, qui est un personnage que j'ai retrouvé ce soir avec le plus grand plaisir. Et on a bien le sentiment, en remontant dans le temps, puisque là, je crois que ce film a dû être tourné en 57, on a bien le sentiment que depuis, il y a eu, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais enfin, il y a eu un appauvrissement assez étrange de la langue, parce que tous ces gens, moi c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé en voyant, outre la qualité des poèmes de Marc Jacob, mais ce qui m'a vraiment enchanté en voyant ce film, c'est la qualité extraordinaire de la langue de tous ceux qui y participent. C'est là où vraiment on ne peut que regretter que tous ces films-là dorment un peu inutilement, mais entre nous, ça n'intéresse plus grand monde. Enfin, je veux dire, nous sommes des happy few ce soir, mais essayer aujourd'hui de faire un film sur la poésie, même dans le service public, même sur un peintre, même sur un musicien, c'est passé de mode. Quand je dis passé de mode, je dis ça pour être très gentil, parce que c'est... Par contre, si vous avez la chance de tomber sur une jeune fille qui a été violée 3 fois dans un garage. Alors là, vous pouvez proposer ça à n'importe qui. Immédiatement, le film sera financé, tourné et projeté. Il y a quelque chose, il y a tout un dévoiement, enfin, je dirais, du rôle de l'audiovisuel qui s'est fait lentement, sûrement, et qui n'est rien d'autre, d'ailleurs, que la mainmise du fric sur le... finalement, on a cru que... là, je passe de Marc Jacob à un problème plus large sur l'audiovisuel. On a cru un peu naïvement que la publicité était le coupable numéro un, mais on s'aperçoit aujourd'hui que rien ne change, parce que en fait, ce qui est le coupable, c'est cette recherche frénétique de l'audience, en fait. Et ça, c'est tout à fait évident. Je veux dire, il y a quelque chose là contre lequel il est extrêmement difficile de lutter. Et espérons, c'est le seul mot que je puisse employer, espérons qu'un jour, comme je crois que l'histoire est cyclique, peut-être que un jour ou l'autre, tout ça reviendra, mais j'en suis pas très sûr.
Moi, je voulais vous poser une question. Dans votre film, vous ne dites pas que Marc Jacob a eu une illumination et s'est converti. Vous prenez cet élément comme un fait.
Non, mais je crois que Salacrou en parle oui, très très bien, je trouve. Oui, si à plusieurs reprises, sa foi est soulignée très fortement, je dirais.
La deuxième petite question que je voulais vous poser, c'est quand vous avez cherché à faire un film à propos d'un poète. Vous avez choisi de partir à la recherche de Marc Jacob, mais est-ce que... Alors, je ne connais pas toute cette filmographie, mais pas Reverdy, sur la même période, pas Reverdy, pas...
Reverdy, pas, si, Reverdy, j'ai tourné avec lui dans Les Heures Chaudes de Montparnasse.
Oui. Mais est-ce qu'il y a eu...
Dans Les Heures Chaudes, il y a un film sur la poésie qui s'appelle La Voix des Poètes. Donc
Mais est-ce que vous avez fait la même chose, par exemple, un film à la recherche de Pierre Reverdy, par exemple?
Non, j'ai pas. Non, il faut dire que Pierre Reverdy ne se prêtait guère à ce genre de tournage. Mais je l'ai fait donc pour Apollinaire, je l'ai fait aussi pour Léon-Paul Fargue. Dans Les Heures Chaudes de Montparnasse, il y a un film tout entier qui est consacré à Léon-Paul Fargue, qui est un des grands poète oublié, je dirais, mais immense poète. Voilà. Oui.
Excusez-moi, mais pourquoi ces films-là sont vos propriétés? C'est votre propriété.
Pardon, je vous entends pas.
Les Heures Chaudes de Montparnasse, oui, vous appartiennent?
Non, pas du tout.
Ah non?
Non.
Pourquoi ce n'est pas édité actuellement en DVD?
Oui, si.
Vous parlez des
Heures Chaudes.
Ah, Les Heures Chaudes,
c'est... On veut les acheter?
Ah oui, Les Heures Chaudes, elles sont... Oui, oui, Les Heures Chaudes existent en DVD, elles ont été sorties, c'est ça aussi qui est intéressant à souligner, par une toute petite maison qui s'appelle Dorian Film, qui est d'ailleurs l'éditeur aussi de Peter Watkins, enfin de films extrêmement rares. Mais ça existe, oui, bien sûr, ça existe en DVD, oui.
Comme les Malraux,
Malraux sont sortis toujours par Dorian Film. Oui. Voilà.
Ça vaut peut-être la peine de signaler que c'est le livre de souvenirs de Fernand Olivier qui est le seul livre sur les années de Montmartre que Marc Jacob recommande à d'autres dans les années de la guerre. C'est le seul. Donc il appréciait sa franchise.
Et Kahn Weller disait la même chose. Donc c'est quand même deux garants extraordinaires. Ma chère Nadine, je crois que c'est à toi.
Voilà. Ah, une question.
Oh, pardon.
Comment avez-vous sélectionné les personnes que vous avez interrogées?
Vous savez, c'est un peu Quand j'ai fait Les Heures Chaudes de Montparnasse, je crois que j'ai tourné avec à peu près 150 personnes, témoin. Alors, c'est un peu... C'est l'un qui conduit à l'autre, je dirais. C'est Salacrou. Je crois que j'ai commencé avec André Billy, et André Billy m'a dit, mais il faut absolument voir Salacrou. Salacrou m'a dit, il faut absolument voir Macorlan. Enfin, c'est un peu... C'était un peu les hasards des rencontres, en fait. Il n'y avait pas de plan. Si, il y avait, j'ai beaucoup cherché, par exemple, pour trouver le docteur Dreyfus, parce que son témoignage était évidemment essentiel. Et il a d'ailleurs hésité, à témoigner, je me souviens. Mais c'était des rencontres... Il n'y avait rien de... Il n'y avait pas d'a priorisme, je dirais. C'était un peu les hasards de la vie, enfin, on pourrait appeler ça. Mais heureusement, à l'époque, évidemment, il y avait encore beaucoup de témoins. D'ailleurs, c'est ce qui fait que plus le temps passe et plus, effectivement, d'avoir pu faire tout un film avec Giacometti vivant, c'est évidemment quelque chose qui m'enchante, enfin, parce que c'est... L'œuvre de Giacometti, on la verra encore dans des siècles, mais lui, le bonhomme Giacometti, c'est évidemment extrêmement important qu'on puisse le voir comme s'il n'était pas mort, en fait. Merci, en tout cas.
Merci. Je voulais, avant que nous puissions partager ensemble un verre de l'amitié, nous avons un autre très très beau cadeau qui nous est donné, grâce à vous, Monsieur Jean-Marie Drault. C'est Nadine Allary qui nous fait l'amitié de donner à entendre des textes de Max Jacob. Alors, carrière au cinéma, parler avec Nadine, c'est... avec Agnès, quand on l'a rencontrée il y a quelques jours, c'est réouvrir Avignon, c'est réouvrir Villars, c'est réouvrir le cœur de Gérard Philippe, c'est réouvrir les souvenirs de Costa Gavras, de Gilles Grangier, de Christian Jacques, de Nicole Garcia, et c'est entendre aussi une voix. Et je me demandais où j'avais entendu votre voix. Et on appelle ça, je crois, une voxographie. Et j'ai été regardée et voilà. Donc c'est la voix de Lara. La si belle voix de Julie Christie dans le film si beau et si magnifique du docteur Zhivago. Alors voilà, donc bienvenue Lara. Bienvenue. Qu'est-ce que vous avez fait rêver des gens avec votre voix ? Et je voulais dire que Nadine Allary, elle m'a joué un tour, c'est que quand elle a accepté très généreusement de lire des textes, j'ai fait le plus vite possible, j'ai dactylographié plein de machins, et elle a lu, et elle m'a rappelé en me disant « Vous vous êtes trompée ». Et elle avait raison.
C'était pas grand-chose.
Oui, mais c'est...
petites erreurs.
Mais oui, mais justement, ces petites erreurs, c'était... le gage de la posture de la lecture, de cet engagement dans la lecture. Je vous remercie parce que, à travers vous, votre respiration, votre voix, va passer un poème. Et quelque chose qui est donné par Max Jacob, qui passe par vous, qui nous est adressé à nous, avec chaleur et générosité. Merci beaucoup.
Merci à vous. Je voulais dire à Jean-Marie que... je le remerciais beaucoup pour ce film que je n'avais pas vu, qui m'a laissé dans un grand état d'émotion. J'ai trouvé magnifique et j'y ai retrouvé ma grande amie Lolé Bellon, que nous avons perdue il y a 10 ans, et qui est une merveilleuse personne, une merveilleuse comédienne, et c'est une lourde charge de dire des poèmes de Max Jacob après elle. Voilà, je me remets un peu de mon émotion et je suis à vous. Défense de Tartuffe. parlant, mangeant, dormant, celui qui dort et dort. Ses paroles sont une floraison. Comme du tuyau, du jet d'eau, sort sa parole en toute occasion. En dormant, il pleure et rit et parle. Et de sa bouche et de ses yeux viennent des perles. En dormant, il aime et parle et aime celui qui dort et dort. Il n'est pas toujours le même. Il porte des fleurs comme un arbre, celui qui dort et dort. Au loin s'étendent ses branches, au-dessus de l'océan, il est un phare. Son amour et sa haine sont une avalanche. Il a une trompe d'éléphant comme le dieu Kadesha. Il parle de souffrance et de patience, la puissance de la sottise, il la détrône, comme s'il connaissait quelque chose de tout ça. Il salue la liberté, les cathédrales, la reconnaissance, avec toute la force du cœur de l'homme, celui qui dort et dort. Un soir que sa vertu avait étonné le monde, il se trouva couché avec une femme immonde. Alors il pleura, sans bruit. Il pleura, enfin réveillé. Et il lui sembla qu'il pleurait pour la première fois. Celui qui dort et dort, il n'est pas toujours le même lui-même, celui qui dort et pleure et aime. Roman feuilleton. Donc, une auto s'arrêta devant l'hôtel à Chartres. Savoir qui était dans cette auto, si c'était hôtel, voilà ce que vous voudriez savoir. Comme vous ne le saurez jamais. Jamais. La fréquentation des Parisiens a fait beaucoup de bien aux hôteliers de Chartres. Mais la fréquentation des hôteliers de Chartres a fait beaucoup de mal aux Parisiens, pour certaines raisons. Un garçon d'hôtel prit les bottes du propriétaire de l'auto et les cira. Ces bottes l'ont attiré, car l'abondance des autos dans les hôtels empêchait les domestiques de prendre les dispositions nécessaires à un bon cirage de bottes. Fort heureusement, la même abondance empêcha notre héros d'apercevoir que ses bottes étaient mal cirées. Que venait faire notre héros dans cette vieille cité de Chartres qui est si connue? Il venait chercher un médecin, parce qu'il n'y en a pas assez à Paris pour toutes les maladies qu'il avait. Encore le roman feuilleton. Robert se perd dans ce parc. Il rencontre les châtelains. Il accepterait bien leur aimable invitation, mais il est attendu ailleurs. Ailleurs, on ne l'attend pas en réalité. Il est surpris de retrouver son père chez les habitants de Chartres. Robert s'appelait en réalité Hippolyte. Il eût été habillé à la dernière mode s'il y avait eu une dernière mode, mais il n'y a pas de dernière mode, alors il était habillé comme tout le monde, c'est-à-dire mal. Robert eût été capable de faire 800 km en auto pour aller dire à l'ami de ses amis « Je le bonjour à vous souhaiter de la part de Monsieur Tell. » Car Robert était bon, mais il n'avait pas d'amis. Robert s'installa à table et mangea comme il n'avait pas mangé depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il mangea peu, car il mangeait toujours beaucoup. Et je dis qu'il mangea bien. Or, il mangeait le plus souvent médiocrement, mais cela lui était indifférent. Robert ne faisait rien pour ne pas perdre de temps à travailler. Il le perdait peut-être autrement. S'il eût eu quelques tâches, il n'eût pas su s'en tirer. Aussi n'en prenait-il pas. Robert ne faisait rien, ce qui vaut mieux que de mal faire, et ceci ne l'empêchait pas de mal faire. Mais laissons Robert à Chartres. Présence de Dieu. Une nuit que je parcourais le ciel amour, une nuit de douce mer, où les étoiles étaient les feux du retour et diaprés, comme l'arc-en-ciel. Une nuit que les étoiles disaient « Je reviens ». Leur pitié saignait de mon sans-repos, car le malheur a percé mes pieds et mes mains. Ô résignation, c'est toi qui chantes le Laos. Une nuit que les étoiles couvraient mon vol, J'aperçus un astre qui m'approchait et il me versait un opium qui rend folle. Et l'astre me séduisait avec son œil épais. Des caresses désenchevêtrent mes membres. L'amour n'attend pas. Il n'attend pas. Il est astre et je suis plante. Nous sommes ensemble. Tu me feras pousser comme un panorama. Et quand je fus près de l'astre événement, je vis que c'était le beau Dieu, le concepteur du monde, le Seigneur, le génie gentleman. Alors il m'absorba comme une liqueur. C'est un secret, et il n'y a pas de mots pour dire que mon sang en lui, Dieu, se retire comme en un seul cœur. Musique acidulée. Boum, dame, Amsterdam. Barnège n'est pas baume les dames. Papa n'est pas là. Les picadoras n'est pas du chocolat. Gros loup du Congo, oh, le beau Limpopo. Port du mort, il sort de l'or. Bis, port de mort, il sort de l'or. Clair de mer, de ver de terre. Rage, mage, déménage, du fromage au tunage. Papa n'est pas là. L'Ipeka du Maharaja n'est pas là. Pipi, j'ai envie. Faut-il dire ici? Vrai? Vrai? La question féminine. Sans se l'avouer, avait-il peur un jour qu'elle se trompât de bête? Quand elle fut au pied de la tour, la frêle amazone romantique, elle arrêta le galop de son cheval, elle entra, massa son fiancé, puis siffla la monture qui était bien loin et qui revint. Que mademoiselle de Valombreuse fût masseuse, cela son fiancé le lui pardonnait bien, mais qu'elle fût honteuse, c'en était trop. Sans titre. Il y a des étoiles qui sont des abeilles, ambre foncé et onyx, d'autres sont des saphirs clairs. Dieu a les yeux clos. Le tambour de ville. Il a été perdu une belle âme à l'état de neuf, l'a rapporté à Dieu, son propriétaire. Sans titre. Le pauvre examine le manteau de Saint-Martin et dit « Pas de poche ?» Enterrement à Quimper. Ni fleur, disais-tu, ni couronne. Avril n'est pas de cet avis. C'est le Seigneur qui te les donne. Vois, c'est déjà le paradis. Avril, avec ses catafalques de tulipiers comme des algues, sur d'innombrables ponts et sous les marronniers, sous les branches et les aubépines, enterre ta vie de mort et ta chaste vie d'héroïne. Je regarde à travers mes pleurs. Ici, la mort a pour voisine la croissance des palmiers nains. Ton corbillard, ô ma Delphine, n'est qu'un oiseau des boulingrins. Quand je fus fatiguée de larmes, là des voyages et des malheurs, un coin de violette de Parme avança le pied du Seigneur. Où aborderas-tu? Ô ma sœur héroïne, quel con établi, plus fière des lilas, l'amoureuse tétine en ce matin d'avril au bord de la rivière, plus fière que le violet des magnolias de fer, de leur pistil, élant ta barque. Ô, voilà là, combien doux à la mort nous semblent tes sophas, au printemps glorieux au bord de ma rivière, et l'ancienne boutique. Cortège, ton chenal, le vieux balcon croupi voudrait toucher la terre qui me cachait l'été pour lire mon passant. Oh, moi aussi courbé, mais au sens vertical. La cour, l'atelier et les vieux locataires. Passé de mon passé, Nous sommes des passants. Assez bien passé, toi seul, les funéraires. La mort est un printemps qui n'est pas éphémère.
C'est vraiment le piège.
C'est incroyable ce que vous lui ressemblez à Lily Bénard.
Ah oui, c'est fou. Hein, c'est trop cool. C'était comme ma sœur, vous savez, ouais. C'était comme ma sœur que j'ai pas eue. C'était une amie incroyablement proche. Mm-hmm. Elle est morte 2 jours avant de partir.
Elle est morte très jeune.
Elle est morte il y a 10 ans. Cérébrale, un AVC.
C'est extraordinaire.
Descendre les escaliers, toujours à main gauche, et vous verrez, c'est juste à l'étage d'en bas.
Parce que vous l'avez dans la maison.